Portrait de compositeur flamand. Henri Tobie.
Pour le moment, j'entends beaucoup parler de notre Rick. Il n'a jamais beaucoup fait de politique, mais ces temps-ci, il commence tout de même à exprimer davantage son avis ici et là. Cela a beaucoup à voir avec son camarade, Dargon. Son vrai nom est en fait Simon-Pierre Gauthier. Il est un danseur français qui est venu à Anvers en 1771 pour ouvrir une école de danse. C'était très à la mode à l'époque. Il s'est fait appeler Dargon et il faut dire qu'il a connu un certain succès peu de temps après son arrivée. En 1772, il a acquis les droits de citoyen de la ville d'Anvers et c'est à peu près à ce moment-là qu'il est devenu rapidement ami avec mon frère. Il a même souscrit à son opus 1, rendu possible grâce au soutien financier de ses amis, et je me demande si Dargon n'a pas établi des contacts pour faire publier ses 6 trios chez Le Menu. Mon frère l'a également rencontré au palais urbain d'Anvers de Charles de Proly, où Rick donnait des cours de musique aux enfants et Dargon donnait des cours de danse. Ils se connaissent maintenant depuis 25 ans, je pense. J'ai toujours trouvé ce Français un peu trop excentrique, mais Rick s'entend bien avec lui, un type intelligent, c'est sûr, le genre qui lit des livres. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me dérange. J'ai fini par m'habituer au fait que les gens pensent qu'il n'y a pas de musique respectable écrite dans les Pays-Bas méridionaux et que toute bonne musique vient toujours de quelque part en France, en Allemagne ou en Italie. Mais la même chose est aussi dite à propos des livres. Comme s'il n'y avait pas de bons écrivains ici à Anvers, encore moins de réflexion. J'admets que la plupart des livres flamands sont principalement de nature religieuse et moralisatrice, souvent écrits par des prêtres, mais on lit aussi pas mal de français ici. Ainsi, dans chaque bibliothèque anversoise digne de ce nom, on peut trouver une œuvre de Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Je me souviens encore de comment l'évêque d'Anvers, Wellens, a même tenté désespérément en 1779 de réintroduire l'enseignement du catéchisme pour adultes. Il luttait contre la diffusion de livres anti-religieux écrits en français. Certes, l'évêque parlait sans doute des recueils érotiques, voire pornographiques, mais aussi de certaines idées philosophiques venues de Paris. Et celles-ci sont bel et bien lues ici. Environ un tiers de la population sait lire et écrire, ce qui place les Pays-Bas autrichiens à la fin du XVIIIe siècle parmi les meilleurs d'Europe. La Gazette d'Anvers est largement diffusée et lue à travers la ville. De plus, la connaissance des langues étrangères y est plus importante que partout ailleurs en Europe. L'un des intellectuels les plus influents de notre époque est Corneille Spanœuvre. C'est l'enfant terrible de la guilde des écrivains d'Anvers et il possède une librairie et une imprimerie. Ses traités et pamphlets défendent les idées des Lumières et il est clair qu'il consulte assidûment l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Spanœuvre est devenu un fervent défenseur de la politique anticléricale de notre empereur habsbourgeois Joseph II et a fulminé contre l'Église et le clergé dans son propre magazine, Uit de Drukkerij der Waarheid. En 1789, il lance cette parution. Mais lorsque la révolution brabançonne se retourne contre l'empereur l'année suivante, les vitrines de sa boutique sont brisées, son stock de livres jeté dans la rue et incendié par les patriotes. Son imprimerie est dévastée avec des haches et des marteaux. Il n'en reste rien et Spanœuvre prend la fuite. Il passe le reste de sa vie à Bruxelles. Spanœuvre s'est toujours entendu avec Dargon et partage un peu cette pensée radicale. Dargon était également franc-maçon et orateur de la loge La Concorde Universelle, fondée en 1776, ce qui signifie qu'il savait bien s'exprimer. Je sais que le violoniste Jan Frans Redijn, un ancien camarade de jeu de mon frère Rick, en était également membre. Et il y avait encore d'autres membres de l'orchestre du Tapissierspand qui faisaient partie de la loge. Même parmi les membres du bureau des aumôniers en 1776, 8 d'entre eux étaient francs-maçons. Honnêtement, je n'ai aucune idée si mon frère est franc-maçon. Par contre, j'en ai la certitude pour son fils Bert, qui joue également du cor dans le Tapissierspant aux côtés de son père. Peut-être que c'est grâce à Dargon que Bert a trouvé son chemin vers la loge. Quoi qu'il en soit, lorsque les Français ont pris la ville en novembre 1792 dans le cadre de leur politique d'annexion, beaucoup de choses ont changé. Après près de 500 ans, la guilde des musiciens de la ville a disparu. Les processions religieuses et la musique d'églises luxueuses ont été interdites. Cela signifie que des jours sombres attendaient les musiciens. Car soudainement, il y avait beaucoup moins d'endroits et d'occasions pour gagner sa vie. Pourtant, Rixke Tobie a rapidement découvert le créneau sur le marché. Nous vivons dans une nouvelle ère, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est aussi une ère d'entrepreneuriat. Les Français ont aboli le métier avec toutes ses règles et restrictions, ce qui a rendu tout le monde libre d'entreprendre. Il y avait toujours des gens avec de l'argent et du pouvoir politique, et ceux-ci organisaient toujours des fêtes pour lesquelles ils avaient besoin d'un orchestre. Le nouveau conseil municipal faisait également appel aux musiciens. Mon frère avait maintenant beaucoup d'expérience en tant que chef d'orchestre et a créé son propre petit orchestre qu'il faisait jouer à de nombreuses occasions. Bien payé, évidemment. Une fois, 520 florins, une autre fois, 656 florins. Les affaires marchaient bien. Il a probablement été encouragé et protégé par son ami Dargon. Notre Français radical est rapidement devenu un homme de confiance pour le nouveau régime. Et avec son profil radical, il s'affiche comme un jacobin. Il s'engage en politique et finit par devenir juge. De cette manière, mon frère fournissait du travail à ses collègues, y compris à ses fils, Bert, Adrian, Yann et Eric Junior. Son autre fils, Yann, est enrôlé de force dans l'armée française en 1798. Il est devenu trompettiste dans un régiment de hussards et a voyagé à travers l'Europe avec l'armée de Napoléon. Et lorsque Napoléon est venu pour la première fois à Anvers en 1803 pour inspecter le vieux port, il était accueilli par le conseil municipal, dont Dargon, sous les sons de la fanfare d'Anvers. Rick était là aussi, avec son fils Adrian. Ensemble, ils se tenaient à l'entrée du port pour saluer Napoléon, naviguant de la tête flamande à la bircaille. Cela devait être un événement mémorable, car la visite de Napoléon allait changer complètement l'histoire d'Anvers. Cela marquerait le début de l'expansion du port d'Anvers, qui ne ferait que croître par la suite. Quand Napoléon visita une deuxième fois Anvers en 1810, Rick Tobie n'était plus. Il est décédé en 1809. Quant à moi, Jacobus, son frère, j'étais parti 11 ans plus tôt. On m'a oublié. Mais mon frère Hendrik Tobie ne méritait pas l'oubli tant il a composé de belles choses. Sa musique revit depuis quelques années et je concède volontiers qu'elle m'a, ainsi qu'à de nombreux Anversois, procuré un grand plaisir.